Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, les malheurs des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'after en direct sur RMC, 7 jours sur 7 jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. Coach Courbis est là, salut Roland.
Salut à tous.
Et Kevin Diaz nous rejoint, salut Kevin.
Salut à tous.
Grosse journée de Ligue 1. Je vous rappelle qu'on ne jouera pas demain, dimanche 5 mai, en hommage aux victimes du drame de Furiani. 4 matchs ce soir et le match nul concédé par Brest contre Nantes, 0-0. Je vous attends, mes Brestois, mes Nantais, le 32-16. Pour venir débriefer cette rencontre. On en reviendra également sur la victoire contestée de Rennes à Metz, 3-2. On écoutera notamment la Slobodanie furieux contre l'arbitrage. Monaco a assuré sa place dans le top 4 en dominant Clermont 4-1 et Le Havre a fait un grand pas vers le maintien en s'imposant contre Strasbourg 3-1. On vous attend, supporters de ces clubs, au 32-16. Les drôles de l'âme seront là également en fin d'émission. Grosse journée aujourd'hui à l'étranger puisque le Real Madrid est officiellement champion d'Espagne. Un peu grâce à sa victoire contre Cadix 3-0 et aussi beaucoup grâce à la défaite du Barça contre Gérone 4-2. Le Barça qui recule d'ailleurs à la troisième place derrière Gérone. On sera également avec Paulo Breitner puisque le Borussia Dortmund a joué aujourd'hui 3 jours avant la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Paris. Victoire 5-1 contre Augsbourg avec une équipe B. 10 changements, 10 remplaçants étaient là au coup d'envoi et Dortmund a cartonné. Et puis en Angleterre dans la course au titre, statu quo, victoire d'Arsenal contre Bournemouth 3-0, victoire de City, 5-1 contre Wolverhampton, toujours un point d'avance pour Arsenal sur City, mais Manchester City a un match de moins que les Gunners. Vous dire qu'on vous attend au 32-16 sur tous ces sujets, que je vous lis sur le Direct Studio, sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot, merci d'être là, vous pouvez venir nous voir et commenter. Et puis juste avant de démarrer à 22h55, on a un direct ce soir. Il y aura également un direct demain soir, c'est la Formule 1, le Grand Prix, c'est demain à 22h sur RMC. Dans quel ordre de départ? Réponse maintenant avec Jean-Luc Roy, l'épilogue de la séance de qualification à Miami.
Ah oui, c'est absolument maintenant, Thibaut, puisqu'il reste 22 secondes exactement dans le cadre de cette Q3. Nous allons savoir qui va décrocher la pole. Pour le moment, elle est aux mains de Verstappen. Verstappen, ce serait la 6e pole position consécutive en cette saison 2024. Ce serait la 38e de sa carrière de pilote de Formule 1. Ce serait la 101e de Red Bull. On va attendre évidemment que tous les pilotes soient passés sous le drapeau d'Amier, puisque certains sont en amélioration maintenant. C'est le cas de Sergio Pérez, l'équipier justement, qui est pour le moment 5e avec la Red Bull, mais qui est le plus rapide dans le 2e secteur. Donc il est en mesure peut-être d'améliorer son chrono. Verstappen avait signé le meilleur temps dans le 1er secteur. Lui, il est pour le moment dans le 2e. On l'attend dans le 3e. Le temps officiellement imparti est maintenant terminé, mais naturellement les pilotes vont terminer cette dernière boucle et c'est à l'issue de ces dernières performances et des derniers virages que nous aurons la grille de départ de ce Grand Prix. Je vous rappelle que Verstappen avait été l'homme qui avait signé la pole pour la Sprint Race, la course qui s'est disputée hier soir. Et puis on a eu Charles Leclerc qui était sur la même ligne. Leclerc est pour le moment 2e temps. Carlos Sainz avec la Ferrari est 3e. On en a terminé, je crois, du côté de Verstappen, 1:27.241. Il n'a pas amélioré dans sa dernière tentative, mais pour le moment il resterait devant parce que je me rends compte que Leclerc n'a pas amélioré dans le premier secteur, pas amélioré dans le deuxième, pas amélioré dans le troisième. Donc la menace ne vient pas de Leclerc. Sainz peut-être. Sainz n'a pas amélioré non plus, ni dans le premier. Voilà, c'en est terminé. Je pense qu'a priori, on attend maintenant peut-être Pérez. Pérez est dans le deuxième secteur pour le moment, mais non, il n'améliore pas non plus dans le premier. C'est terminé pour Pérez, terminé pour Norris. Et à signaler que du côté des Mercedes, on a tenté un coup en montant les pneumatiques médium, comme l'avait fait tout à l'heure Norris. Eh bien, ça n'a pas fonctionné. Voilà la grille. Thibaut, je peux te la donner. Verstappen a signé donc la 38e pole position de sa carrière de pilote de Formule 1, la 6e pole consécutive, un début évidemment absolument parfait parfait pour le pilote hollandais, peut-être en route vers son quatrième titre de champion du monde. Il aura à ses côtés Charles Leclerc. C'était le cas avec la Ferrari, c'était le cas de la Sprint Race. Sur la deuxième ligne, on va trouver Carlos Sainz avec l'autre Ferrari, troisième temps. Sergio Perez sera quatrième temps. Donc les deux premières lignes avec une Red Bull, une Ferrari. Sur la troisième ligne, on trouvera les deux McLaren dans cet ordre, de Lando Norris et d'Oscar Piastri. La quatrième ligne, et on a vu la déception se lire sur le visage de Toto Wolff il y a un instant, sera pour George Russell et Lewis Hamilton. Et la cinquième pour Hülkenberg et Tsunoda. Le onzième, c'est Stroll. Et je vous rappelle que les pilotes français, légère amélioration, Pierre Gasly sera 12e sur la grille de départ et Esteban Ocon 13e.
Merci Jean-Luc Roy, tu me soignes cette petite voix et on se retrouve demain à 22h.
Je vais faire mieux demain.
Pour le départ de ce Grand Prix de Miami en direct sur RMC. 23h02, c'est l'alerte. Le moment pour vous de vous inscrire pour vivre l'expérience RMC au Parc des Princes et gagner vos places pour PSG Dortmund mardi. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant PSG par SMS au 732-16. Bonne chance à tous. Juste avant les 3 points, les deux matchs à l'étranger du soir. Surprise en Italie, où l'Inter, championne, a été battu par Sassuolo, 1-0. Et puis en Espagne, l'Atlético de Madrid s'est imposé à Majorque, 1-0. Les drôles de dames, tout à l'heure, tout de suite, c'est le plus important sur RMC.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Kevin, tes 3 points ce soir, qu'est-ce que tu retiens de cette journée?
Bah écoute, c'est quand même le bon point pris par Nantes, hein, en tout cas ce soir, parce que c'était un point très important qui leur donne quand même 4 points d'avance sur la zone rouge, ce qui n'est vraiment pas négligeable au vu des derniers mois pour le FC Nantes. En deux, je vais retenir, je vais pas dire le coup d'arrêt, mais quand même la petite contre-performance de Brest qui du coup laisse Lille avec son destin entre les mains, c'est-à-dire que si Lille venait à gagner ses 3 derniers matchs, qui sera loin d'être facile parce qu'ils ont des beaux adversaires, mais en tout cas ils pourraient perdre cette troisième place. Et en trois, c'est quand même la belle victoire du Havre qui cet après-midi a fait un grand pas au minimum vers le barrage, et je pense même, peut-être je leur souhaite en tout cas, vers le maintien.
L'important, c'est les 2 points pour Roland. Comme toujours.
Écoute, je regarde notre Ligue 1 et je la trouve passionnante. Beaucoup de points d'interrogation. J'en ai sélectionné 2. Qui terminera quatrième, ça me passionne et j'ai pas la réponse, donc je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. Et ensuite, qui terminera barragiste? En ce qui concerne les Messins qui peuvent être déçus, je pense que compte tenu de là où ils étaient il y a 2-3 mois, faire les barrages, ça serait pas une catastrophe, ça serait pas non plus impossible de se sauver, je dirais même le contraire. Et en ce qui concerne notre Ligue 2, j'espère pour nos amis stéphanois qui ne regrettent pas le match d'aujourd'hui, parce que perdre 2 points, je dis bien perdre 2 points, hein, donc dans justement la possibilité d'en gagner 3 en menant 2-0, je leur souhaite de pas regretter ça, parce que cette remontée, elle est suffisamment extraordinaire pour que vraiment que le puisse pas s'arrêter. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter.
Saint-Etienne qui menait 2-0 à Guingamp, qui a fait 2 partout, qui reste deuxième ex-aequo avec Angers de Ligue 2. Et Auxerre a battu le PFC 2-0, 70 points. Auxerre quasiment un pied et quasiment tous les orteils en Ligue 1, puisqu'il ne s'agit que d'une histoire de différence de but qui est largement à la faveur des Auxerrois. Commençons sur ce Brest nul, ce Brest-Nantes nul, 0-0, et qui, vous en parliez, Kevin et Roland, au classement, les Brestois 3e, 57 points, 4 points de retard sur Monaco désormais pour la 2e place, 2 points d'avance sur Lille qui peut passer devant lundi soir. Les Lillois recevront Lyon, et pour les Nantais 14e, 33 points, c'est 4 points de mieux que Metz, le barragiste. Sur ce Brest-Nantes, Kevin et Roland, difficile d'analyser ce match sans tout de suite dire qu'en première période, Pierre Lesmelou est sorti sur blessure, Del Castillo est sorti sur blessure, et comme par hasard, Brest n'a jamais ou presque été en mesure d'inquiéter vraiment les Nantais et d'aller gagner.
Ouais, même si je sais pas ce qu'en a pensé le coach, mais en tout cas je trouvais quand même Nantes qui a fait un match correct quand même, avec des occasions aussi, hein, des grosses occasions, notamment en première mi-temps, avec
plus Ablin, que les Brestois même, hein,
avec Ablin qui doit au moins marquer celle où il dribble le gardien et derrière il tire au dessus, mais sinon forcément Brest, ça fait partie de ses équipes, mais c'est pas les seuls, hein, on le dit souvent quand même de l'OM aussi, quand il te manque tes 2-3 meilleurs joueurs derrière, c'est quand même forcément compliqué, c'est logique, c'est déjà un club qui fait des miracles depuis le début de saison, mais forcément quand t'as ton métronome au milieu de terrain et ton déclencheur en Del Castillo qui se blesse. Derrière, c'est quand même beaucoup plus difficile de mettre en difficulté une équipe de Nantes qui, comme je l'ai dit, a fait un match comme sait le faire l'équipe d'Antoine Gomboiré, c'est-à-dire solide, en concédant, allez, disons pour une équipe qui joue le maintien, peu d'occasions, et en étant tout proche de marquer ce but qui leur aurait carrément assuré le maintien.
Oui, c'est vrai, Roland, sur le papier, c'est une mauvaise opération pour les Brestois, c'est ce qu'on aurait dit avant le match. Mais quand tu vois le contenu, la tournure des événements, la sortie de leurs deux meilleurs joueurs, ils en sortent pas mal. Avec
comme je disais tout à l'heure, sans revenir à ce qui s'est passé il y a 3-4 semaines ou il y a 3-4 matchs, simplement sur les deux derniers matchs. Cette victoire à Rennes dernièrement, à la dernière minute, 5-4, alors que c'était 4-2, 4-3, 4-4, et puis après 5-4. Bon. Et avec les deux joueurs importants qui se blessent, faire match nul contre le Nantes de ce soir, bah, et prendre 4 points sur les deux derniers matchs, je trouve que premièrement, c'est pas catastrophique, c'est même très bien. Et vu le calendrier et les deux derniers matchs de Brest, que Lille puisse gagner les trois derniers matchs, c'est possible, mais j'attends de voir ça avec impatience. Et déjà lundi, battre Lyon, c'est pas simple du tout. Donc on va encore assister à des matchs avec beaucoup de suspense, et notre championnat finalement est passionnant.
Brest qui recevra Reims la semaine prochaine avant de terminer sa saison à Toulouse. Jacques nous appelle au 32-16, supporter brestois. Salut Jacques, bienvenue dans l'After.
Ouais, bonsoir à vous tous.
Salut Jacques.
T'étais au stade ou pas?
Ouais, tout à fait, j'étais au stade. Ouais.
D'accord.
Je sors du stade là.
Ah. Maintenant t'es au pénalty?
Non, je suis à proximité.
C'est le bar à côté,
c'est ça? Je peux pas vous dire pourquoi. Non, pas du tout. Je peux vous dire pourquoi, mais je suis à côté.
Bon. Qu'est-ce que t'as pensé du match de ce soir, Jacques? Est-ce que tu partages le fait de dire que sur le papier, c'est pas un bon résultat, mais finalement, vu comment ça s'est passé, il est peut-être pas si mal, ce point?
Bah, vous avez à peu près tout dit, hein. Avant le match, on pensait faire quelque chose d'intéressant, hein. On joue reçoit Nantes, on reçoit Reims. On va à Toulouse, ce sont des équipes qui sont à notre portée. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est vrai qu'en première mi-temps, on perd Del Castillo, on perd Les Melou, qui sont vraiment les maîtres d'hommes de notre propre équipe, qui lance un peu le jeu, quoi. Et Nantes a été également très performant en première mi-temps. Je veux dire, ils ont eu quand même des actions très dangereuses. Heureusement qu'ils sont maladroits, parce que sinon... À la mi-temps, le score n'aurait pas été nul. Par contre, en deuxième mi-temps, les deux équipes se sont tenues, entre guillemets, quoi. Donc, on est quand même content de terminer avec un match nul ce soir.
Est-ce que tu as peur de finir quatrième? Est-ce que ça t'inquiète d'éventuellement finir quatrième? Est-ce qu'on en est là à Brest?
Non, on n'a pas peur de terminer quatrième. On est content de faire ce qu'on a fait cette année. Maintenant, on devient gourmand, bien sûr, au fur et à mesure, hein. On est sur le podium depuis un moment. On aimerait bien terminer troisième, mais bon, si on doit terminer quatrième, on termine quatrième, cinquième. Mais comme on est sur le podium depuis un moment, on aimerait bien y rester. On espère que les Lyonnais feront quelque chose à Lille.
Et ce sera lundi soir sur RMC. Merci Jacques, bonne soirée à toi.
Bonne soirée.
À bientôt.
Salut Jacques. Et allez Brest.
C'est entendu. Merci Jacques. Brest qui concède le nul 0-0 face à un bon FC Nantes qui ce soir, grâce à ce point, valide une chose, c'est celle de terminer au pire barragiste. Voilà, ce sera pas une relégation directe pour les Nantais qui ont ce soir, je disais, 4 points d'avance.
Sachant que les barrages avec Gomboiré, ça leur a plutôt réussi la dernière fois.
Oui.
Face à Toulouse.
Effectivement. Les Nantais qui ont 4 points d'avance sur les Messins. Je rappelle, et on en parlera dans quelques instants, les Messins qui auront notamment le PSG à jouer d'ici la fin de la saison. La saison, vous l'avez dit dans vos points, et Kevin, c'était ton point numéro 1. Bon match des Nantais ce soir. Un Nantes différent en plus, hein. Il y a eu pas mal de changements au période coup d'envoi. Chirivella qui n'était pas là. Bon Mollet, même si c'est plus un habitué du banc. Mais,
Oui, et puis surtout, c'était dans l'état d'esprit quand même. Il y avait un petit peu plus d'allant. Alors, même si dans le dernier match, il manquait quand même pas mal de joueurs offensifs dans cette équipe du FC Nantes. Aujourd'hui, s'il y a une équipe presque qui doit s'imposer, pas forcément sur la position de balle, mais en tout cas sur les occasions, comme je l'ai dit, c'est Nantes. Mmh. Et c'était quand même un match avec beaucoup d'enjeux, hein. Beaucoup d'enjeux pour les Nantais. Là, ils s'enlèvent une belle épine du pied. Ils vont, je vais pas dire qu'ils vont finir en roue libre, hein, parce qu'ils sont pas encore maintenus, mais en tout cas, quand t'as maintenant un petit matelas, tu peux encore avoir un joker et gagner au minimum un match, ou même, je pense que même prendre un point là, ça devrait suffire pour te maintenir.
Et même, on leur fera pas, même zéro, ça peut suffire. Parce que
même derrière, zéro, ça peut suffire. Ouais, mais je veux dire, aujourd'hui, tu as quand même maintenant une soupape de sécurité qui va te permettre, je l'espère en tout cas pour les Nantais, de se maintenir. Et aujourd'hui, quand tu vois les occasions qu'ils sont capables de se créer, mais on sait quand même que dans cette équipe, il y a des joueurs de qualité. C'est pas une équipe qui a joué la Coupe d'Europe et qui a fait un beau parcours l'an dernier pour la majorité pour rien. Donc maintenant, moi, je tiens à les saluer parce que pas facile quand même de se rendre dans même s'il y a eu des absents ensuite à Brest parce qu'il y a eu des blessures. C'était pas facile quand même de se rendre à Le Blé dans une situation de grande difficulté au classement et d'arracher un point du match nul. C'est un très très gros résultat.
Nantes qui a un calendrier sévère en plus, hein, qui termine par la réception de Lille. Les Nantais qui perdent tous leurs matchs à domicile depuis plusieurs mois. Et un déplacement à Monaco pour terminer. C'est vrai, Roland, comme le dit Kevin, quand tu vois Nantes ce soir, et même quand tu les vois pas mal à l'extérieur cette saison, c'est une équipe qui a rien à voir avec Clermont ou Lorient. Enfin,
rien du tout, mais rien à voir non plus avec le Nantes à domicile.
Oui, c'est ça aussi. En fait,
c'est quand même.
Comment tu l'expliques?
C'est quand même inquiétant. Aucune explication. Donc, si ce n'est manque de confiance de certains joueurs. Ensuite,
après, il y a ce plan de jeu quand même.
Je me rappelle dernièrement, les Nantais à domicile, mais sans un spectateur, c'est plus du tout un avantage. Je pense même que c'est un inconvénient. Non, cette saison, il faut vite la terminer, se sauver. Antoine, une fois de plus, aura pris les points qu'il faut pour se sauver, ce qui n'était pas évident du tout quand il est arrivé. Et ensuite, si on regarde aussi le potentiel offensif de Nantes, il y a de quoi faire quand même une équipe qui peut poser des problèmes à beaucoup d'autres équipes.
On a Patrick qui est là, supporter nantais au 32-16. Salut Patrick.
Bonsoir à tous.
Bienvenue. Salut, sur RMC. Patrick. Hey, t'as fait un bon match ce soir, pas loin de regretter de prendre qu'un point, non?
Oui, bah évidemment qu'il y a des regrets de prendre d'un point, mais il y a aussi la grosse satisfaction de l'avoir pris, ce point. J'ai eu une équipe nantaise pleine d'abnégation, qui s'est battue, qui n'a rien lâché, qui s'est créé des occasions. Mais si avant le match, on m'avait dit, Patrick, que tu vas prendre un point à Brest, j'aurais signé directement, et je pense que je ne suis pas le seul, parce que beaucoup voyaient Nantes battue à Brest. Hein. Donc, c'est plutôt un très, très bon résultat. Et je suis très satisfait du contenu, parce que j'ai vu une équipe nantaise qui s'est créée des occasions, qui a bien défendu. Enfin, j'ai vu tout le contraire, comme l'a dit Roland, de ce qu'on voit à la Beaujoire.
Mais justement, est-ce que toi, Patrick, tu as une explication? Nantes, qui est une des meilleures équipes en 2024 à l'extérieur et qui est sur 9 défaites consécutives à la maison.
J'en ai une, après, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est que... dès qu'on a commencé à enchaîner une, deux, trois défaites de suite, déjà, je suis allé quand même quelques fois à la Beaujoire, pas de chance, j'habite loin de la Beaujoire, j'y étais, il y a des fois où on a perdu contre Clermont, contre Metz et contre
Tu veux dire par là qu'ils se piquent au jeu, comme ils veulent battre un record extraordinaire de toute l'histoire du club?
Ce serait un record sublime, mais enfin bon. Non, mais je pense que les joueurs, au fur et à mesure des contre-performances qu'ils ont faites à la Beaujoire, d'abord, ils ont été quand même, par moments, après les matchs, sifflés, pris à partie par une partie du public, je le précise. Et je pense que plus les matchs avancent à la Beaujoire, plus cette équipe, elle est éliminée quand elle arrive sur le stade de la Beaujoire. Parce qu'elle sait qu'elle reste sur 6, 7, 8, 9 maintenant. Et effectivement, les joueurs, peut-être, sont plus timorés, tentent moins de choses, et puis font plus d'erreurs. Et puis au final, perdre plus de matchs. Et je suis, moi encore aujourd'hui, inquiet pour le match contre Lille la semaine prochaine.
Ouais. Et tiens, bon,
après, ils ont quand même que 28% de possession de balle dans le match.
Ouais, oui.
C'est pas non plus.
Ce que je disais tout à l'heure.
C'est pas le nombre de cocotiers de
plus,
mais c'est mieux que les dernières semaines.
Il y a un plan de jeu aussi qui est peut-être plus adapté à l'extérieur, d'attendre bas et de partir vite devant. C'est ça. Juste pour conclure sur Nantes, j'aimerais qu'on dise un mot quand même de Mathis Sablin, qui est un joueur, moi je trouve, à chaque fois que je le vois, qui. Attention le mot, mais qui m'émerveille. Je trouve que je vois qu'il y a vraiment du ballon. Mais c'est technique, c'est rapide. Mais il y a aussi ce truc de devant le but, c'est plus compliqué. Patrick, toi, le supporter nantais, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu retiens plus ses ratés devant le but ou tu retiens tout ce qu'il est capable de faire avant?
Moi, je retiens tout ce qu'il est capable de faire avant parce que les ratés qu'il a eu aujourd'hui, il ne les a pas eu dans les trois matchs précédents où il a marqué à chaque fois. En plus, quand un attaquant déjà se crée des occasions, c'est qu'il est présent, il fait des bons appels. Donc à partir du moment où l'attaquant se crée des occasions, et on sait qu'un attaquant, il y a des périodes de réussite, il y a des périodes où le ballon qui d'habitude rentre 5 cm à l'intérieur, ben il est 5 cm à l'extérieur. Là, c'était un petit peu plus ce soir. Mais Ablin est un joueur qui est en train d'énormément montrer de la qualité. Je suis même très, très surpris que les entraîneurs précédents qui étaient avant l'ont complètement ignoré, mais l'ont énormément ignoré. Mmh. Là, il y a des choses qui m'échappent. Mais Ablin, c'est un joueur, j'ose espérer que s'il montre son lien, ça paraît pas trop mal parti, qu'on pourra le conserver. Mmh. Parce que moi, il m'épate. Hein.
Kevin, tu vois un peu...
Oui, c'est un joueur de qualité, comme dit Patrick. C'est vrai qu'un joueur qui se crée des occasions. Maintenant, il y a un moment, on est quand même en Ligue 1. Et, et il va être aussi jugé, non pas par les occasions qu'il se crée, mais par celles qu'il met au fond. Là, quand il dribble le gardien, alors il y a un peu de précipitation. Peut-être que le ballon, je sais pas, on n'a pas bien vu, est-ce qu'il y a un faux rebond, un truc.
Je crois même pas, malheureusement.
Mais, non, mais là, il doit tout simplement marquer. Et c'est pas marqué pour les stats, c'est marqué pour récompenser sa première mi-temps qui est très correcte.
23h17, merci Patrick d'avoir été là, bonne soirée.
Merci à vous,
à très
bonne
vite.
Soirée à vous.
À bientôt.
Salut, salut Patrick.
Dans un instant, ouvrons le chapitre, et il peut être d'importance, je le sais, je vois les messages des Messins dans le chat de la chaîne YouTube. La victoire rennaise, 3-2, plus le carton rouge pour Mikotadze, qui va terriblement manquer contre Strasbourg la semaine prochaine, le 32-16. Si vous voulez réagir, oui, parce qu'on ouvre ce chapitre, c'est aussi un chapitre arbitrage, bien évidemment. 23h18, l'after est là en direct jusqu'à minuit avec Kevin Diaz et Coach Courbis. Ça tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Merci d'avoir choisi RMC une fois de plus en ce samedi soir avec Coach Courbis, Kevin Diaz. Énorme after, énorme journée de Ligue 1, c'est la 32e. On est là en direct jusqu'à minuit, les drôles de dames seront là tout à l'heure, mais on continue d'analyser les quatre matchs du jour. On parlait de la course au maintien avec les Nantais à quelques minutes près. Ça aurait pu être bien différent pour les Nantais puisque les Messins étaient virtuellement revenus à hauteur puisqu'ils menaient face au Stade Rennais ce soir 2-1. Mais finalement, un pénalty que certains jugent généreux a permis au Rennais d'égaliser avant qu'il passe devant et que Mikotadze, en plus, l'arme fatale côté Messin, se fasse exclure de manière peut-être sévère. Conséquence au classement, Metz reste 16e, barragiste et à 3 points du 15e, Le Havre. 23h20, on parle beaucoup d'arbitrage. Ce soir, j'ai lu les messages sur la chaîne de l'After sur YouTube. Écoutons Laszlo Bologni, l'entraîneur messin, le premier concerné ce soir au micro de Patrick Muller.
Cerise sur le gâteau, ça dépend pour qui c'est le gâteau. Il y a l'expulsion de Mikotadze. Je ne sais pas de hurler, de pleurer, de rigoler. Je ne peux pas commenter parce que c'est incommentable. Je me pose une seule question. Est-ce que vraiment je suis prêt de parler pour vous vraiment ce que je ressens et vraiment ce qui est sur mon cœur? Parce que si je fais ça, alors je prends aussi, j'y vais, j'habite pas loin de la gare, j'achète tout de suite un billet pour aller à la commission de discipline. Et ils vont avoir raison, parce qu'il y a toujours une phrase, un mot d'interprétation par lequel il y en a certaines qui sont plus égaux que les égaux, voilà. Qui sont plus sages que les sages. Qui ont plus de droits que... Voilà. C'est tout. Donc alors, déjà, je crois qu'avec ça, j'ai trop dit.
Laszlo Bologni qui ne voulait pas en parler, mais bon, qui en a parlé quand même. Il commence, on l'a pas entendu au début du son, sur le pénalty de l'égalisation pour les Rennais. Et ensuite, c'est le carton rouge concernant Mikotadze. Bon, c'est pas rigolo en fait toutes les semaines de revenir à chaque fois sur l'arbitrage, les erreurs d'arbitrage, les problèmes, etc. Coach Kevin, difficile de dire que là l'arbitrage n'a pas été catastrophique ce soir, que ce soit le penalty qui est très sévère et le carton rouge peut-être encore plus quoi.
Non mais le penalty après pour le coup là, je suis désolé pour les Messins, mais ça reste de l'interprétation. Si on se rapporte par exemple à la faute sur Füllkrug contre le Paris Saint-Germain, le gars il est en l'air, un peu comme là l'arbitre, en tout cas Monsieur Taylor, a jugé qu'il n'y avait pas de faute sur Füllkrug. Pour moi il y a faute, et là par exemple là il y en a qui vont dire qu'il n'y a pas de faute sur Kalimuendo, mais Kalimuendo il est à pleine vitesse, le Messin il pose le bras sur l'épaule, tu poses le bras, si l'attaquant il joue bien le coup et que l'arbitre tombe dedans, c'est pas le problème de l'arbitre, c'est pas le problème des Rennais, c'est le problème de l'arbitre, et c'est lui qui juge à vitesse réelle. Il a jugé qu'il y avait pénalty, ça tu peux pas revenir, tu peux considérer que c'est sévère.
Il y a le VAR justement pour revenir.
Non, puisqu'il y a un contact, l'arbitre juge que ce contact, c'est pas le VAR qui appelle l'arbitre pour dire attends, attention, faut regarder. Non, c'est l'arbitre à l'instant T qui juge.
Quand tu dis tu peux pas revenir, si justement, si jamais tu
non,
tu
pas quand
trompé,
l'arbitre juge à l'instant T, parce que là, c'est de l'interprétation. Il y en a qui vont, moi je trouve que c'est sévère, mais ça peut siffler. Il y en a qui vont juger. Donc c'est pas manifeste. Par contre, sur le carton rouge de Mikotadze, là c'est plus sévère. Là c'est pas un carton rouge, c'est un carton jaune. Il arrive le torse en avant, il bouscule un peu son adversaire, mais c'est pas ça, c'est jaune. Il y a pas de violence, il y a un peu trop de véhémence, mais c'est un jaune. Allez, calme-toi et puis finis ton match.
Et le plus incompréhensible sur ce carton rouge, c'est que l'arbitre monsieur Buquet est appelé justement par le VAR. Il va voir l'action. Et il maintient le carton rouge. C'est peut-être ça finalement la plus grosse dinguerie. Roland,
disons que je me mets à la place de Bologna. C'est sûr que tu es obligé de ne pas être content. Après, je pense que malheureusement, il faut arriver à réfléchir de la meilleure ou de la moins mauvaise des façons. La possibilité de jouer les barrages pour les Messins, c'est tout. Sauf une catastrophe pour moi par rapport où était cette équipe il y a 2-3 mois, qu'elle était vraiment très très mauvaise. Et là, je crois que cette équipe Mikotadze, ok, peut-être, et je pense qu'il prendra qu'un match, et en plus je l'espère.
Strasbourg semaine prochaine.
Il pourra jouer le dernier match.
Face au PSG.
Le dernier match c'est contre le Paris Saint-Germain, mais quel Paris Saint-Germain sera opposé face à Metz, ben ça. On a le temps d'y réfléchir, et Mikotadze, dans tous les cas de figure, sera présent pour le barrage. Donc, surtout que dans leur tête, les Messins ne pensent pas que les barrages, ce soit une descente. Mmh. Les barrages, c'est la possibilité pour se sauver, avec, ne l'oublions pas, un énorme avantage pour le club de Ligue 1.
Et Metz qui a l'avantage d'avoir 3 points sur Lorient, 3 points d'avance sur Lorient, qui perd tous ses matchs, et 4 points d'avance sur Clermont à 2 journées de la fin. Christophe est là, supporter messin, 32-16. Salut Christophe, bienvenue dans l'after.
Salut les gars, comment que c'est ? La forme ?
Salut. Ah, nous, la pleine forme, et toi Christophe là ?
Ça fait plaisir de vous avoir les gars. Bah écoutez, moi
c'est
ça
gentil,
va.
C'est réciproque.
Exactement.
Ouais, c'est gentil les gars. Bah écoutez, moi je suis supporter messin, voilà, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Je fais du
coup
depuis que j'ai
4
ans.
Tu te prépares pour te sauver au barrage, on est bien d'accord ?
Ouais. Bon, en même temps, on est à la place où on mérite. Tu vois, moi, je suis supporter messin. Voilà, depuis que je vais au stade avec mon papa depuis l'âge de 5 ans, on est à la place qu'on mérite. Alors, Mikotadze est revenu depuis le mercato. Il nous a fait énormément de bien parce que sinon, on se battrait en duel pour la place de dernier avec Clermont. En tout cas, c'est ce que pense. Et voilà, j'ai demandé à parler à l'after ce soir parce que je voulais avoir votre avis, les gars, sur le match de ce soir et notamment le niveau de l'arbitrage et surtout de la VAR, parce que l'arbitre, en ce qui concerne le penalty et en ce qui concerne surtout le carton rouge de Mikotadze, c'est la raison de mon appel. Clairement.
Non, mais en plus de ça, bon, je veux bien, excuse-moi de te couper, qu'il n'existe pas les compensations. Mais c'est humain et c'est logique qu'il peut et qu'il doit y avoir une certaine façon de compenser. Quand il y a eu ce pénalty sévère que tu as sifflé quand même, eh bien, tu l'as sifflé. Mais derrière ça, ne sont pas Mikotadze pour un coup de poitrine sur un joueur qui arrive et que bon ça je ne me l'imagine pas une seconde. Surtout après le penalty, eh ben oui, on va pas faire chaque fois des heures et des heures pour dire il y avait pas.
Non, c'est très sévère. Tu peux le siffler. Voilà, le penalty, tu peux le siffler
parce que
il y a des matchs de Ligue 1 partout dans les grands championnats européens où il y a une petite faute, il y a penalty, et comme l'a bien dit Kevin, j'ai entendu pendant que j'étais en attente à l'antenne, c'est une histoire d'interprétation et ça je veux bien l'accepter. Pour moi clairement, c'est sujet d'interprétation, forcément, en étant subjectif, il n'y a pas pénalty, en étant objectif, il peut être sifflé. Quand on regarde au ralenti, il y a une petite poussette, sur le match de Paris-Dortmund, c'était exactement la même chose. Pour moi, il y avait faute, il n'y a pas eu pénalty. Forcément, je suis pour Metz, je pense qu'il n'y a pas pénalty. Donc, c'est une histoire d'interprétation, là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, le carton rouge, c'est hallucinant. Que l'arbitre le donne, parce que il voit l'action en live, ça va super vite, il voit le joueur tomber. D'ailleurs, je sais même pas si c'était Calvené qui tombait. Mais après, il y a la VAR qui arrive, et il y a quand même un rappel, il y a la vidéo, il y a tout ce qu'il faut. On voit bien que, Mikotadze, il vient provoquer, certes, ça mérite un carton jaune. Ok, mais pas un rouge. Et j'espère que, je ne sais pas s'il y a une commission derrière qui peut revenir sur le rouge pour que Mikel Tazé espère jouer à Strasbourg. Et là, c'est rare. Mais
non,
là,
non, ça oublie.
Ah, mais les gars, ça
oublie.
Doit arriver.
Soyons contents. Déjà, s'il ne prend qu'un.
Ouais.
Et donc non, le fait de lui enlever le carton
après,
rouge.
Rouge direct, c'est pas minimum deux, coach.
Dernièrement.
Non. Normalement non, c'est.
Dernièrement, qui était expulsé, c'est Lespinou qu'on a essayé.
Oui. Et il a pas eu le carton retiré.
Il y a une chose sur l'arbitrage vidéo. Hein. L'arbitrage vidéo, vous savez qu'il y a des nouvelles directives depuis quelques semaines où on dit que dans les dernières minutes d'un match, sur un carton rouge, sur un penalty, on conseille à l'arbitre de systématiquement aller voir la vidéo. Peu importe qu'il soit sûr ou pas.
Mais donc
là, c'est pas forcément l'arbitrage vidéo qui lui dit, oh, il y a un truc bizarre, faut que t'ailles voir. Là, ça peut être juste le cas où c'est les dernières minutes, il y a un carton rouge, va voir. Mais c'est pas forcément, tu sais, normalement, quand l'arbitre appelle, quand l'arbitrage vidéo appelle, c'est qu'il y a une erreur possible.
Excuse-moi, tu es obligé d'avoir les boules. Parce que si
c'est normal d'avoir les boules. Pour moi, il n'y a pas carton rouge.
À la 89e minute, tu as la possibilité de dire à l'arbitre, bon, allez quand même voir, on est un petit peu sur les nerfs tous, on est peut-être un petit peu fatigué, ça fait une heure et demie qu'on court, ok. Et que tu sais qu'il y a eu ce penalty sévère, ben tu regardes l'image et tu penses, excusez-moi, mais allez, Mikel Tazé, tu peux revenir sur le terrain et surtout tu peux continuer à jouer avec ton club et tes coéquipiers. C'est ça je n'arrive pas
surtout
à le comprendre.
Surtout à deux journées de la fin.
D'être têtu comme ça pour faire quoi? Pour se dire c'est moi que j'ai raison. Il y avait la possibilité de donner un carton. Mais non, tu n'es pas obligé d'avoir raison. Déjà, le penalty, allez, ça se siffle ou ça se siffle pas. Tu l'as sifflé, mais ne leur mets pas une double peine et pourquoi pas une triple peine aussi.
Oui,
fais un papier comme quoi il a été impoli aussi, tant qu'on y est.
Ce soir, c'est pas en tout cas un problème de vidéo, effectivement. Un problème d'arbitrage, d'une manière générale. Refermons cette page avec Christophe. Merci d'avoir été là, Christophe. Bonne fin de saison et bon barrage probable. Hein. À bientôt.
Ouais, merci les gars.
Bye bye, Christophe. Et dans un instant, le Stade Rennais, qui se replace mine de rien grâce à cette fin de match dans la course à l'Europe. Les Rennais 7e. On vous attend au 32-16 si vous voulez en parler. On va également revenir sur la victoire de Monaco contre Clermont. 4-1, encore un doublé pour Ben Yedder. Les Monégasques seront en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est l'after sur RMC avec Kevin Diaz et coach Courbis. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Nous sommes samedi le 4 mai, c'est une énorme journée de Ligue 1 que nous analysons avec coach Courbis, avec Kevin Diaz, jusqu'à minuit avec vous tous au 32-16 ou sur YouTube, la chaîne de l'after, @after-foot. 4 matchs aujourd'hui, il n'y aura pas de match demain, je vous le rappelle. Le Lille-Lyon aura lieu lundi soir, ce sera en direct sur RMC. Les matchs de nos clubs européens, Paris et Marseille, ce sera 10 jours plus tard pour les mettre dans les meilleures conditions pour l'Europe. On conclut sur cette victoire rennaise à Metz ce soir, 3-2, qui permet, mine de rien, et elle est importante, aux Rennais de remonter provisoirement à la 7e place, 45 points, à 4 points de la 6e place occupée par Lens, qui est, à l'heure où on parle, qualificative pour la Coupe d'Europe, et on aura un Rennes-Lens, notamment la semaine prochaine. Bon, après, quand on regarde les prestations rennaises, Roland, on a regardé un bout du match ensemble cet après-midi. Bon, comptablement,
ouais,
tu fais une bonne opération.
Il y a du bon, il y a du moins bon.
Ouais.
Maintenant, bon, c'est une saison qui aura été, j'ai l'impression, pénible et compliquée du côté de Rennes. Tu vas en demi-finale quand même de la Coupe de France. Malheureusement, tu as eu comme tirage au sort le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et ensuite, la possibilité encore de terminer à la 7e place. Il reste 2 matchs. Que les Rennais puissent gagner ces 2 matchs, c'est pas impossible du tout. Et que ça ferait, je crois, 51 points.
Oui.
Et 51 points dans une saison, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas catastrophique non plus. C'est, allez, une saison correcte, mais avec un Rennes qui aurait pu et qui aurait dû mieux faire.
Saison correcte quand même, tu dis? Ouais,
si tu termines la 7e, demi-finale de la Coupe de France, ma foi, il y a pire. Mais c'est vrai que vu l'objectif de Rennes,
y a mieux.
En début de saison, que c'était Champions League, c'est vrai que la saison, elle est pénible et compliquée.
Evan, supporter Rennes, est avec nous au 32-16. Salut Evan.
Bonsoir messieurs.
Bon, tu te...
Salut Evan.
Salut Evan.
Tu vois plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide, toi?
À moitié vide.
Ah.
Non, bah, au début de saison, on visait la troisième place, enfin, en tout cas, le podium. Force est de constater que c'est quand même un énorme échec. Là encore, on voit aujourd'hui, la défense est catastrophique. Catastrophique. J'attends que Florian Maurice fasse son mea culpa, parce que vraiment, c'est une faute professionnelle, quoi. De ne pas avoir à recruter en défense, quand on voit le résultat, c'est terrible, quoi. Terrible.
Bah, c'est vrai que sur le boulot de Florian Maurice, le problème, c'est que c'est pas la première saison, quoi. Ça fait 2-3 ans que les Rennais ont des grosses galères de défense centrale, quoi.
Bah, exactement. Donc ça continue. Donc faut absolument rectifier le tir au mercato d'été, parce que sinon, bah, ce sera pas possible. On pourra pas. Il y aura toujours ce plafond de verre. Donc non, c'est très décevant. C'est très décevant. Ouais. C'est
Bon, après, c'est très décevant, mais vous avez quand même gagné aujourd'hui. Bon, maintenant, après, attention, une chose est sûre, c'est qu'il vous manque un défenseur central. Mais on peut pas considérer que Arthur Théâtre n'est pas un joueur intéressant pour jouer en Ligue 1 les 5-6 premières places, comme c'est l'objectif de Rennes. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
Oui.
Plutôt les 3-4 premières places, l'objectif de Rennes, quand même.
Oui. Oui,
non, mais bon.
On va pas chipoter. Ça, première place, c'est les places européennes.
C'est quand même une grosse différence entre la Ligue des Champions ou la Conférence League.
Arthur Théâtre, aujourd'hui, il fait pas tâche à l'Olympique de Marseille, hein. Je suis désolé. Et pourtant, il joue aussi le podium. Je suis pas sûr qu'Arthur Théâtre.
Il a pas l'air dit loin devant, quand même.
Oui. Arthur Théâtre est pas mauvais, mais il faut pas le surcoter.
Je ne le surcote pas non plus. Je parle d'un défenseur de Rennes. Donc, Arthur Théâtre, c'est correct. Aujourd'hui, il vous sauve, hein. Je sais pas si tu vois le sauvetage sur la ligne, mais c'est lui, quand même. Bon, maintenant, ça reste un joueur qui a du potentiel. Donc, quand on parle de défense centrale, on part surtout d'un central droit, en l'occurrence. Et c'est vrai que vous n'avez plus de central droit, en tout cas, depuis quelques années. Vous galérez un peu. Il y a les 2-3 jeunes qui peuvent dépanner. Il y a Christopher Wu, qui était quand même un pari aussi. Mais il vous manque quelqu'un à ce poste-là. Ça, c'est sûr. Maintenant, on peut pas non plus considérer que la défense centrale, elle est cataclysmique à Rennes. À partir du moment où t'as Arthur Théâtre, qui normalement est censé être un joueur correct de Ligue 1.
Oui.
Ouais, mais là où je pourrais rajouter,
il te manque un central droit.
Mais là, il te manque un central droit. Au lieu de réfléchir, les amis, uniquement sur le profil et sur le niveau moyen de 4 défenseurs sur les 5 défenseurs rennais. Regardons un petit peu l'âge. Quand, par exemple, tu perds, comment il s'appelle?
Aguerd.
Qui est parti à Real Sociedad.
Traoré,
qui avait 21 ans. Tu le remplaces par Assignon, qui reste pas et qui après prêté. Le petit Doué, qui est pas mal. Oui, mais il est pas mal, mais il avait 21 ans. Après, tu en as un autre de 22 ans. Même Théâtre, qui serait
jeune.
Allez, celui un peu le moins jeune et le plus expérimenté, 22 ans. Bélossian, pareil. Là, pour un club, un effectif qui a comme ambition de terminer dans les 3 voire 4 premiers, tu es obligé d'avoir au moins un arrière central d'expérience. C'est tout simplement impossible.
T'as un gardien qui a assez d'expérience pour les deux. Non, je plaisante, mais t'as un gardien qui a quand même beaucoup d'expérience aussi. Ça joue dans une défense, même si j'entends que bien sûr dans l'idéal.
Si en plus de ça, tu voulais rajouter un gardien débutant. On joue le maintien du côté de Rennes.
Je ne te dis pas qu'il faut un gardien jeune. Au contraire, mais je te dis qu'avec Mandanda, quand même, t'es censé être un gardien avec énormément d'expérience. Je ne dis pas que ça va forcément compléter les carences de la défense centrale de Rennes. Maintenant, moi, je trouve qu'on est quand même assez dur du côté de Rennes avec Florent Maurice. Il n'y a pas de problème. Qu'il y ait eu un manque à ce niveau-là depuis le départ de Naef Aguerd, c'est sûr. Maintenant, c'est aussi un club qui travaille avec son centre de formation. C'est aussi un club qui fait monter, qui fait grandir les jeunes. Et ça peut être aussi une fierté, même si c'est vrai que des fois, c'est frustrant.
Merci, Evan, d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Allez, bientôt. Bye bye. Et à noter que pour le match contre Lens, la semaine prochaine, le Rennes-Lens, Matuziwa et Terrier seront suspendus pour les Rennais. 23h41, l'after. Ouais.
Par rapport au carton d'aujourd'hui ou?
Oui, carton jaune.
Alors, si c'est par rapport à celui d'aujourd'hui, il ne sera pas suspendu pour le prochain.
Non, attends. Enfin, si, c'est Julien Stéphan qui l'a confirmé. J'ai pas le détail, mais.
Ah, ben alors, c'est un carton du
match. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Ouais. Exactement.
Mais bon, y a quand même plusieurs possibilités, que ce soit en 6-8 ou que ce soit en attaquant.
Ouais.
Bon, il y aura quand même une équipe qui tiendra la route.
Oui, puis il y a Kalimundo maintenant qui se met à marquer. Monaco s'est imposé contre Clermont 4-1. Et dans cette Ligue 1 où on commence à faire tous nos petits calculs là, deux trois journées de la fin, Monaco assure son top 4. Alors pas encore la totale Champions League, le top 3 n'est pas assuré, mais sera Monaco au pire 4e, 61 points ce soir pour les Monégasques. 4 de plus que Brest, 6 de plus que Lille et 10 de plus que l'OGC Nice, avec encore un doublé de Ben Yedder ce soir. Et pour Adi Hütter, c'est pas encore terminé cette histoire de 3-4e place et d'importance.
Nous avons deux matchs importants, un à Montpellier et un match à domicile contre Nantes. Nous devons donc attendre les autres résultats de demain et de lundi. Nous devons nous préparer pour le match important à Montpellier. C'est ma tâche, c'est notre travail, et nous voulons terminer cette saison à la deuxième place. Personne ne nous fera de cadeaux. Lille et Brest veulent aussi finir la saison à la deuxième place. Nous devons continuer notre travail, nos résultats, puis je suis totalement convaincu que nous pourrons atteindre nos objectifs.
Mais le match à Montpellier, il est pas simple.
Semaine prochaine.
Non, normalement, mais bon, il y a un ou deux blessés sur le dernier match, et l'expulsion de Savanier. Donc c'est pas un Montpellier au top du top, mais c'est un Montpellier qui se battra quand même. Mais je pense que les Monégasques sont capables de prendre au moins un point à Montpellier.
Monaco qui terminera en recevant Nantes. Bon, Monaco qui bat Clermont 4-1, qui est un solide deuxième. Kevin, coach, c'est un train qui arrive à l'heure. Le problème qu'il y a eu, c'est toute la saison où on n'a pas trop compris qu'il galère autant. Bon, ils finissent la saison comme ils auraient dû la faire.
Et puis attention, aujourd'hui, l'AS Monaco, ils retrouvent aussi des joueurs en forme. Hein. Mbolo, j'ai revu mon grand ami et d'excellent arrière-gauche, Caio Henrique. Ça fait plaisir de le revoir sur un terrain de foot.
Ouais.
Et forcément,
Mbolo.
Mbolo, je viens d'en parler. Donc, non, cette équipe, attention. Cette équipe, normalement, elle doit finir à moins de 10 points du Paris Saint-Germain. Hein.
Ben,
c'est une équipe qui...
N'oublie pas que Golovin est de côté aussi.
Ouais, donc ils ont quand même un effectif, moi je le dis là, AS Monaco, ils ont un effectif, ils ont une sérénité, ils ont un cadre de vie, un cadre d'entraînement ou de travail qui est quand même extraordinaire.
C'est ça le problème d'ailleurs.
Et un calendrier.
Pas sûr. Mais oui, ça peut être un problème, tu veux dire, pour aller chercher.
Oui, c'est clair que
c'est pas l'ambiance de Louis II qui va te sublimer comme celle du Vélodrome, même celle du Parc des Princes. Mais
cette année, un calendrier qui ressemble au calendrier de Lens de la saison dernière, c'est-à-dire le mardi, le mercredi, le jeudi, devant la télé, tranquillement, en train de regarder tes rivaux jouer la Champions League et l'Europa League.
Plus les semaines passent, plus je me dis que Ben Yedder, qui va partir en fin de contrat, là, dans deux mois, c'est une petite année en plus, ça aurait pas été mal quand même pour Monaco, non?
Ouais, après attention, ils ont quand même préparé l'avenir avec Balogun qui a coûté très cher, donc il va falloir qu'il joue aussi, puis c'est un bon joueur.
Alors bon,
attention, c'est peut-être pas aussi une gâchette et c'est pas un aussi bon buteur que Wissam Ben Yedder. Par contre, ça reste un joueur qui a performé avec Reims, qui est formé quand même à Arsenal. Donc je pense qu'ils vont peut-être lui laisser sa chance, mais c'est sûr que Wissam Ben Yedder ça reste un attaquant hors catégorie pour la Ligue 1.
Et là, on tient un paquet là, de 8, 10 quand même talentueux, hormis Golovin.
Oui, t'as Kliouche, Ben Seguir,
Minamino. Ouais. C'est quand même inquiétant cet effectif pour ceux qui rencontrent Monaco.
Plus les joueurs de côté, Caio Henrique, Van der Sar.
Si lui revient, bon après, tu sais, quand tu reviens, tu as toujours peur, je touche du bois. Que tu puisses rechiter, mais ce joueur-là est très difficile à remplacer. On a pu le voir d'ailleurs cette année.
Et pour Clermont, qui pour se sauver sera au mieux barragiste, hein, ne pourra pas se sauver, il faudra prendre 4 points dans les deux derniers matchs contre Lyon et Lorient et espérer dans le même temps que
4 points.
Metz n'en prenne pas. Au minimum. Clermont est quasiment Ligue 2, on va dire comme ça. 23h45, c'est l'after sur RMC. Coach Courbis, Kevin Diaz. Dans un instant, le Havre qui a battu Strasbourg 3-1 et qui en 10 jours, en prenant ce point au parc, et ça a failli être plus, et en en dominant Strasbourg aujourd'hui, a quasiment assuré son maintien. Et les drôles de dames qui seront là, le Real Madrid, champion d'Espagne, Fred Hermel sera là et Paulo Breitner pour les dernières nouvelles du Borussia Dortmund qui a cartonné avec une équipe B. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Avec Kevin Diaz et coach Courbis, 32e journée de Ligue 1, gros samedi de foot en France, 4 matchs aujourd'hui. Je vous rappelle que ça ne joue pas demain d'ailleurs, after de 20h à minuit, demain soir avec un génération after spécial drôle de dame, puisque lundi on aura le Lille-Lyon et un after entre 22h et minuit où d'ailleurs on aura largement le temps de revenir en longueur sur certains matchs qu'on a fait qu'évoquer ce soir, ouais, Kevin.
On n'en a pas parlé, mais il faudra qu'on en parle, peut-être pas la semaine prochaine, parce que c'est une semaine européenne, mais la déclaration de Pierre Sage.
Sur les trophées UNFP.
Ouais. Avec le fait qu'ils disent que c'est très difficile ou pour lui c'est quasiment impossible de juger le travail d'un entraîneur si on n'a pas vu ses séances. Et coach Courbis à la pause rappelait aussi ses causeries ou la façon dont il aborde et dont il a expliqué.
Il explique ce qu'il faut faire à ses joueurs.
Et donner ses consignes. Et je pense que... alors pour le coup, on avait un Pierre Sage un peu professoral, mais je trouve qu'il a complètement raison.
Oui, oui, sur le côté, on a nommé au résultat finalement sans prendre en compte... la méthode, la manière. Pierre Sage, qui n'est pas nommé, au contraire, de Lucas Elsner. Et finalement, peut-être qu'ils ont eu le pif à l'UNFP, puisque l'entraîneur avrait dans une bonne période, après le nul qui a failli être à une minute près une victoire au Parc des Princes la semaine dernière. Le Havre s'est imposé 3-1 aujourd'hui contre Strasbourg. Conséquence, 15e place, donc 32 points, 3 points d'avance sur Metz à 2 journées de la fin. Et un grand pas de fait vers le maintien, ouais, finalement, pour c'est vrai.
Parce qu'ils sont pratiquement sauvés, mais pour être sauvés, il fallait prendre 4 points entre le match d'aujourd'hui, plus au Parc des Princes, encore
ils l'ont fait.
Même en prendre 2 de plus. C'est sûr que le parcours du Havre, après avoir fait un très bon début de championnat, était devenu très inquiétant.
Le Havre qui se déplacera à Nice et qui recevra Marseille pour les deux dernières journées de Ligue 1. Pour peu que Marseille ait plus grand-chose à jouer ou au contraire quelque chose d'énorme à faire en Europe. Et profiter un peu comme contre Paris. Côté strasbourgeois, on aura le temps évidemment, Le Havre et surtout Strasbourg, d'en reparler demain soir dans l'after avec Gilbert notamment. Écoutez Patrick Vieira en conférence de presse a sorti la sulfateuse contre ses joueurs.
Je suis furieux. Je suis furieux parce qu'on n'a pas le droit d'avoir fait un match aussi pitoyable au niveau de l'attitude, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'esprit de compétition. C'est quelque chose que moi, je ne peux pas supporter. Certainement que les joueurs pensent peut-être déjà aux vacances. Peut-être que les joueurs pensent qu'on est déjà sauvés. Peut-être que moi et le staff, on n'a peut-être pas mis assez de pression. Le message n'a peut-être pas été assez clair. Mais sur cette première période, ce n'est pas possible de jouer un match de cette importance-là, avec cette attitude-là.
Alors, les Strasbourgeois sont d'ailleurs effectivement mathématiquement sauvés. Hein, 13e avec 36 points. Grosse colère de Vieira sur ce joueur.
Ouais, mais il a raison. Il y a un moment, il a raison. Alors, bien sûr, Patrick Vieira, c'est pas forcément l'entraîneur qu'il était avec l'image qu'on avait du joueur, c'est-à-dire un mec hargneux, un mec qui se faisait respecter. Là, il est quand même. On voit que c'est un entraîneur qui est assez pédagogue, qui est assez calme sur le banc de touche. Mais là, il y a un moment où t'as envie de voir aussi des fois le Patrick Vieira et qui est capable de rentrer dans ses joueurs et cet effectif. Mais on en parlait hier pour trois.
La patte Vieira non plus, on la voit pas trop hein, quand même, faut dire. Hein.
Après, attention. Ouais. C'est quand même un joueur, c'est quand même un entraîneur qui fait une saison au final. Elle est correcte la saison. Au vu, tu te rends compte le nombre de, on parlait des jeunes joueurs à Rennes, mais tu te rends compte le nombre de jeunes joueurs qu'il y a à Strasbourg. Ouais. On était habitués nous sur les premières années de Strasbourg après la remontée à des joueurs comme Liénard, à des joueurs même comme Thomasson, à des joueurs de caractère et là même Malchel, etc. Ouais, Djikou, il y avait quand même des mecs qui représentaient Strasbourg, qui représentaient un peu à l'image de Kader Mangan qui est le team manager, voilà des mecs qui avaient de la personnalité. Là il y a que des jeunes, là c'est vraiment Blouko, c'est Chelsea .000 quoi, tu vois, c'est quand même Chelsea en tout petit, voilà, mais il y a pas vraiment de cohérence. Donc quand t'es l'entraîneur de cette équipe pour aller motiver des mecs qui se sont rêvés à Chelsea ou des mecs qui sont très jeunes qui viennent des Pays-Bas qui viennent de je ne sais où, franchement c'est pas facile quand même le métier d'entraîneur aujourd'hui à Strasbourg. Et donc la saison qu'ils font, elle est quand même, allez disons, ils vont se maintenir assez tranquillement.
Surtout qu'ils finissent très mal, troisième défaite de suite.
Kevin, moi, il y a encore 2 mois par contre, ils étaient dans le trou.
Oui, oui. Kevin, moi j'ai toujours pensé que le métier d'entraîneur, il était totalement différent en fonction de l'endroit que tu entraînes et de l'effectif que tu as. Est-ce que tu as un effectif capable de construire tes victoires ou au contraire un effectif capable d'aller pour se maintenir et de, d'être une équipe qui emmerde l'adversaire. Mais en plus de ça, quand tu es dans un contexte que dans ton vestiaire, tu es pas sûr que tu as tous tes joueurs qui sont concentrés pour Strasbourg. Eh ben ça c'est encore plus compliqué et arriver à faire passer le message oui d'être tous ensemble alors que il y en a une partie qui sont là provisoirement, il y en a une autre partie qui savent déjà où ils vont aller la saison prochaine, c'est quand même très très compliqué. Ouais. Et en plus de ça, quand le gardien Cels est parti en début de saison, sincèrement je pensais que c'était l'un des trois meilleurs joueurs de Strasbourg, et je le pense toujours. Donc se sauver sans Cels et les matchs que ce joueur-là et ce gardien-là faisaient, ben je trouve que c'est une bonne performance. Je vais pas dire un exploit extraordinaire, c'est une belle performance.
Rendez-vous demain 22h after de 2h, pas de match demain soir en hommage en 5 mai aux victimes de Furiani, donc after de 2h. Et tiens, une nouvelle de dernière minute, une crainte d'hémorragie cérébrale ce soir pour l'ancien Lyonnais Jeffrey Adélaïde. Il a été touché par un ballon dans le visage aujourd'hui entre Molenbeek et Charleroi. Il est resté inconscient de longues minutes, il a été évacué sur civière et transporté à l'hôpital. Et les nouvelles sont inquiétantes ce soir puisque le média belge le soir annonce qu'on craint une hémorragie cérébrale. L'Olympique Lyonnais sur Twitter, sur X, a apporté son soutien. Nous te souhaitons un prompt rétablissement, écrit ce soir l'OL. On croise les doigts et on envoie beaucoup de force à Jeffrey Adélaïde.
Pense à lui.
Ligue 1 donc demain 22h minuit, comme il y aura ce Lyon-Lille lundi soir, les Drôles de Dames seront là demain soir entre 20h et 22h pour Génération After spécial Drôles de Dames, et à 23h55 ce soir, petit apéritif avec Polo Breitner et qui est là. Salut Polo.
Bonsoir Thibaut, bonsoir tout le monde.
Et Fred Hermel. Allez, hola Chico.
Hola Chicos.
Salut les amis. L'Oréal champion d'Espagne, on en parle dans un instant, mais Polo d'abord, on voulait
c'est
absolument...
C'est une surprise ça, hein.
T'as vu, on ne l'avait pas vu venir, hein.
On te l'a réservé, hein.
On n'est pas vu venir la défaite forcément du Barça d'ailleurs, on en parle dans un instant. Mais d'abord Polo, on voulait des nouvelles absolument du Borussia Dortmund. On est à 3 jours de la demi-finale, retour face au Paris Saint-Germain. On se disait, le Borussia va jouer entre les deux matchs, contre Augsbourg, ils vont perdre des forces. Bon, non seulement ils ont mis 5-1 à Augsbourg, et en plus, ils ont mis une équipe B.
Ouais, ils ont fait vraiment tourner, puisque les 10 joueurs de champ qui étaient présents contre le PSG n'étaient pas là. Il y a même une bonne nouvelle, puisque Malen a été titularisé, et donc il devient une carte maîtresse pour la rencontre retour contre le PSG. Je sais pas s'il faut féliciter le Borussia Dortmund et la performance de Marco Reus, qui est sorti après un but et deux passes décisives, et qui a annoncé qu'il ne serait plus au Borussia l'année prochaine, qu'il ne finirait pas sa carrière en tout cas, ou s'il faut être affligeant sur la performance d'Augsbourg, qui reste sur 3 défaites à la suite, alors que la 7e place, ben, leur tendait les bras et qui est, logiquement, devrait être qualificative pour la prochaine Europa Conference League.
Qu'est-ce qu'on dit en Allemagne, Polo? On y croit ou on sait que ça va être très très difficile au Parc des Princes?
Ah ben, on est conscient que ça va être très difficile, mais qui sont conscients que la chance était un petit peu avec eux lors du match aller. Maintenant, la performance globale du Borussia Dortmund à domicile a été plus que qu'intéressante. On dit que ça aurait pu faire 1-1, ça aurait pu faire 2-1 pour le Borussia Dortmund. Il est bien, on a beaucoup parlé avec Jérôme Rotten et Daniel. C'est l'efficacité, je pense, au match retour sera primordiale. Moi, j'ai du mal à croire que le PSG, sur 2 rencontres aller-retour, n'arrive pas à marquer un seul but. Et si le Borussia veut se qualifier, il faudra qu'il marque au Parc. Ça me paraît évident.
Et on a 2 heures pour en parler demain avec toi, Polo, et revenir également sur la nouvelle défaite du Bayern aujourd'hui, qui se cherche toujours un coach. Et pendant ce temps-là, le Real, surprise, est donc devenu champion d'Espagne. Le Real, Fredo, qui a battu Cadix 3-0, ok, mais il fallait pour être champion que le Barça ne batte pas Gérone, et le Barça a pris 4-2.
Comme à l'aller. Comme à l'aller au Camp Nou, enfin Camp Nou à Montjuïc. L'équipe révélation de cette saison, Gérone a mis une petite branlée au Barça. Enfin, et pourtant le Barça n'a pas mal joué. C'est-à-dire que par 2 fois le Barça a mené 1-0 et ensuite 2-1. Mais défensivement, c'est ce qui a pénalisé les Catalans du Barça, les Barcelonais toute cette saison. C'est la défense qui a été absolument catastrophique. Et c'est vrai que le Real, franchement, que le Barça ne gagne pas à Gérone, on pouvait s'y attendre. mais que le Barça en prenne encore 4, c'est quand même une assez lourd. Mais alors ce qui est terrible, c'est que le Real aujourd'hui est mathématiquement champion avec 13 points d'avance sur le deuxième qui est Gérone, 14 points d'avance sur le Barça troisième et 20 points d'avance sur le quatrième, l'Atlético. Donc la domination du Real elle est éclatante cette saison.
Et ce soir Fredo, premier match de Courtois depuis plus de 9 mois.
Ah ouais.
Avant le match retour mercredi face au Bayern, il va y avoir une question de gardien là pour.
Je l'ai vu régler un tête-à-tête à 0-0 là.
Bah ouais. Donc en fait, on l'évoquera demain soir. Ouais. Alors a priori mercredi c'est Lounine qui va jouer, mais il va y avoir quelques petits matchs avant la finale de l'hypothétique finale de Ligue des Champions.
Il y est déjà.
Bah non, c'est-à-dire que on a tous le sentiment aujourd'hui, après avoir vu Courtois ce soir, autant Militao, on sent que il n'est pas encore vraiment remis. C'est un joueur de chance et c'est pas pareil. Donc ouais. On sent que dans le contact, il a plus de problèmes, dans la vitesse aussi. Autant Courtois semble déjà prêt à être présent dans une finale. Donc oui, ça fait plaisir de le revoir parce qu'il a en plus de sa blessure du ligament croisé, il s'était blessé au niveau du ménisque après quelques jours d'entraînement. Donc il est revenu un petit peu plus vite que prévu. Et ce soir, on a déjà vu du bon Courtois. Équipe B du Real qui a facilement battu Cadix avec notamment un but absolument merveilleux de Brahim.
Et rendez-vous demain 20h, 22h pour lancer cette folle semaine européenne qui nous attend à nouveau sur RMC Génération After spécial Drôle de Dame avec Fredo, avec Polo. Merci les gars, bonne soirée.
Adios chicos,
à demain 20h. Il y aura également Julien Laurence, la course au titre en Angleterre, et Johan Crochet sera là également pour les dernières nouvelles de l'Atalanta Bergame. Merci mon coach, merci Kevin.
Salut à tous.
Merci à Najib et Tim et Adrien en régie au standard. Et merci surtout à vous d'être la fidèle à l'after comme tous les soirs. Demain, énorme soirée. Hein. L'after 20h minuit, génération after et 2h d'after spécial Ligue 1 à partir de 22h autour de Gilbert Brigois. Bonne nuit l'équipe.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.